OK. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour cette possibilité de se servir de cette ovo maltim, comme Robert nous dit, de cette manne fraîche, de cette parole qui est fraîche. Cette parole, il est vrai qu'elle ne change pas. Cette parole qui a traversé des siècles, qui a traversé des maladies, des guerres et plein de choses. Et pourtant, Seigneur, cette parole, aujourd'hui, nous voulons l'élever. On sait que cette parole est liée aussi à ton caractère, à ta personne, comme Jean chapitre 1. Et on te demande, Seigneur, de conduire ce message, de parler à chacun d'entre nous. Et on te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai beaucoup de notes. Parfois je regarde, parfois non. Je vais voir comment Dieu va conduire. Mais pour donner un titre ce soir, je me suis basé un peu de ce que nous avons entendu à Baltimore il y a quelques jours, qui parlait un peu sur la mission. Et il y a, je crois que c'est Pasteur Ronaldo, il disait « Let's go », c'est « Allons-y ». Et je dis « Tiens, ça peut être intéressant de faire une petite recherche de qu'est-ce que c'est la mission ». Et pour vous donner un peu le titre de ce, je vais dire de ce film, non, de ce message, c'est la mission de sauvetage de Dieu. Hier, j'ai partagé un tout petit peu avec l'évangélisation. D'ailleurs, c'était vraiment super. Et on va voir cinq points de comment la Bible présente la mission. Parce que nous, la plupart du temps, quand on regarde la mission, on s'arrête dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Allez-y dans le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais si on s'arrête que à ça, en fait, c'est une toute petite part de tout le reste de la mission. Et c'est pour ça que le titre, j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est la mission de sauvetage de Dieu. Prenons un verset pour vous mettre dans le contexte. C'est quand l'homme et la femme, ils ont désobéi volontairement à Dieu et ils se sont cachés comme s'ils pouvaient se cacher de Dieu. Et là, on a ce magnifique verset que c'est un de mes préférés, Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? On connaît la suite de l'histoire. Mais la première mission que Dieu avait pour l'être humain, c'est qu'il a fait dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, il a fait un lieu où il ne peut que s'épanouir. Un lieu où il y avait tout ce qu'il avait à ses besoins, on va dire un lieu parfait. Je pense que le jardin d'Éden, ça devait être quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, quand on voit ce que Dieu a fait à partir de rien, on ne peut que s'attendre à ce que c'était magnifique. Et si vous regardez les fameux quatre fleuves qui traversaient sans aller trop dans les détails, ben en fait, les fleuves, ils avaient un but pour arroser le jardin, etc. Et il y avait des fruits en abondance. Donc la première mission que Dieu a, là il n'y avait pas de sauvetage, c'était de placer l'être humain dans un environnement qui est bon pour lui. D'ailleurs, si vous regardez Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, quand Dieu a fait les choses, cela a été bon. Puis, il y a eu un soir et un jour. Il y a eu un soir. Et quand il a créé l'être humain, il a dit « cela est très bon ». Ça veut dire que ce que Dieu a fait, c'était « waouh ». Donc on voit déjà la bienveillance de Dieu, l'amour que Dieu avait déjà pour la créature. Parce que nous, rappelez-vous, faisons l'homme à notre image. Donc dans la première partie de la mission que Dieu a envers l'humanité, c'est de lui faire de bien. On dit souvent ce verset dans Romains 8, 28, « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est vrai, moi personnellement, je sais pas vous, j'aurais tellement voulu être dans ce jardin d'Éden et puis juste être émerveillé. Tu manges des fruits, etc. On va continuer un peu plus loin. Puis, il y a eu, donc ça c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, il y a eu comme on connaît la chute. Mais Dieu n'est pas surpris par cela, parce que Dieu est ce qu'on appelle omniscient. Toute chose a été créée avant que nous étions et sera bien après. Toute chose est entre ses mains. Dieu n'est pas surpris en disant, oh là là, j'ai créé la race humaine. Oh là là, ils ont péché, ils ont désobéi. Mais Dieu, on voit ça dans l'île d'Apocalypse, quand Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est pas rien quand il dit immolé. Ça veut dire qu'il a été déjà sacrifié. Et c'est pour ça que je sors un peu de sujet. Mais tout ce que Moïse faisait, c'était d'après le modèle qui était au ciel. Donc, revenons un peu à notre histoire. Donc, il y a eu la chute. On a déjà parlé sur la confusion, sur toutes ces choses. L'Éternel a réellement dit cela et on sait ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'engage personnellement, s'engage sans condition envers la race humaine pour sauver la race humaine, pour amener le salut. Mais il pouvait, entre nous, heureusement, nous ne sommes pas Dieu. Mais tu aurais juste détruit ces deux êtres humains, tu aurais mis le diable déjà en enfer, tout est réglé. Et tu construis, tu fais des nouveaux êtres humains. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu, parce que Dieu aime la race humaine. Dieu aime ce qu'il a créé. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que donc, Adam et Ève, le mot péché, rappelez-vous en grec, ça veut dire manquer la cible volontairement, ils ont choisi d'écouter une autre voix. Mais je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met, en fait, il met, comment ça s'appelle? Une promesse, malgré que la race humaine, elle est déchue, en disant, c'est par cette femme que le Messie naîtra. C'est par cette femme que mon jugement contre toi, contre le péché, ça va se mettre. Et on connaît l'histoire par la suite, pour faire court. Qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré que Dieu s'est engagé personnellement et sans condition, la déchéance de péché s'accroît. On voit que le premier meurtre, comme je lisais tout à l'heure dans le livre de Genèse, Caïn qui a tué Abel. On voit que la méchanceté grimpe, jusqu'à que même Dieu doit intervenir. Et rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu qui est patient, un Dieu qui est miséricordieux, mais il a atteint un tel niveau de méchanceté qu'il a dû envoyer le déluge. Et là, on peut se dire, wow, c'est super, il y a le déluge. Mais ce n'est pas le plan de Dieu complet de sauvetage. Dieu choisit qui? Il choisit un homme, il choisit Noé. Cet homme-là, que, comme on voit dans le livre de Genèse, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui croit. Et là, Dieu lui donne, pour sauver donc l'humanité, et pour sauver lui et sa famille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, construis-moi une arche. Pour la construction de l'arche, ça a duré presque 100 ans. C'est long, hein? Et à cette époque, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne pleuvait pas. Le fait qu'il ne pleuvait pas, imaginez, c'est des passants qui se moquaient de lui. « Mais attends, mon gars, pourquoi tu crées un bateau, là ?» Mais une fois que l'arche a fermé, il y a eu un jugement. Et Dieu a sauvé, donc, cette famille-là. Et avec cette famille, pour continuer un peu plus loin, Dieu a appelé une autre, un homme qui fait partie aussi de cette famille, de son fils Sem, c'est Abraham. Abraham, c'est le père de foi, c'est le père de, comment dirais-je, comme regardez même ce que Galates 3, il me semble. En fait, que, voilà, Galates 3, 6, non, ça c'est autre chose, pardon, je me suis un peu perdu. Voilà, Galates 3, 6 à 7. Comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, sont des fils d'Abraham. Donc Dieu a appelé un autre homme, il a appelé Abraham. Il y a eu son histoire avec Abraham qui est très édifiant. Rappelez-vous, hein, c'est un homme comme nous, ce n'est pas Superman, ce n'est pas Batman, ce n'est pas des héros humains. C'est un homme comme vous, comme moi, une femme de foi. Et là, pour faire court, donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jacob. Et qu'est-ce qui se passe? On met en place la pensée de la descendance, ou plus précisément, de la promesse de Genèse, chapitre 3, qu'un jour le Messie, qu'un jour le Sauveur du monde viendra. Et pour ces patriarches, comme on les appelle, c'est tellement important qu'en fait, par exemple, Jacob, il savait que le fait qu'il n'ait pas aîné, il voulait voler la bénédiction. Ésaü l'a méprisé tellement c'était important, cette pensée de descendance. Puis, pour avancer un peu, c'est pour ça que, en fait, la mission de Dieu de sauvetage, ça ne s'arrête pas juste à quelques passages isolés du Nouveau Testament. C'est depuis tout le début de l'humanité jusqu'à la fin. Mais on reviendra. Puis, il choisit un peuple, le plus petit, pas le plus riche, certainement pas le plus obéissant, le peuple d'Israël, pour être une lumière pour les nations. Waouh! Dieu a choisi que ce soit Noé, qui est un témoin pour ceux qui vivaient à son temps, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Israël, on va dire que ce soit tout l'Ancien Testament, c'était dans le but de briller pour ceux qui croient dans multiples dieux, dans des idoles, dans des choses comme ça. Et c'est pour ça que, si vous regardez avec Israël, Dieu a toujours traité, en premièrement, sans parler que le sang a été versé, tout le tralala, mais des idoles et des faux dieux. Leur mission, autant que peuple choisi, autant que peuple appelé, autant que peuple libéré, et on peut parfaitement s'identifier nous aussi, il devait être la lumière des nations. Il devait faire partie, et il fait partie d'une façon ou d'une autre, de la mission de sauvetage de Dieu. Mais on connaît très bien l'homme charnel, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'homme charnel, l'homme animal, l'homme qui n'a pas la foi en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il ne croit même pas. Imaginez qui n'aurait pas voulu voir les 10 plaies d'Israël en Égypte. Imaginez la délivrance, et comme la Bible reprend, délivrée à main puissante. C'est fabuleux. Mais heureusement qu'on a aussi cette pensée dans la parole, mais il y a un petit reste. Et c'est ce reste-là qui fait la différence. Ce reste-là qui brille. Et Dieu a appelé, que ce soit David, que ce soit Ézéchias, et que ce soit d'autres, le peuple d'Israël, pour être la lumière avant la venue de la promesse, Genèse chapitre 3, de Messie, de Jésus-Christ. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament, et qu'est-ce qui se passe? On a ce sauveur merveilleux, pour vous appuyer un peu ce que je disais, qui devait être une lumière, regardez le psaume 67, verset 2, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, ton salut. » Waouh! Et rappelez-vous, je mets un peu de côté le texte. Rappelez-vous un peu, malgré leur désobéissance, Dieu est miraculeux, Dieu est majestueux, ils étaient quand même témoins, malgré leur désobéissance. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu n'a pas changé. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa mission, c'est pour sauver l'être humain. Waouh! Et par exemple, quand vous voyez, quand il y a les espions qui sont envoyés par Josué, qu'est-ce que Rahab dit? Ah non, on a entendu ce que Dieu a fait. Et on a peur. Parfois, malheureusement, c'est une réalité, notre incrédulité, ça empêche que Dieu nous utilise. Mais revenons un peu à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, comme on voit au début des évangiles, on voit que Dieu a suscité même certaines personnes. Par exemple, vous prenez Siméon, qui était un homme âgé et qui attendait le salut qui venait par Israël. Il attendait cette promesse. Comment il a été averti? C'est un miracle, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous révèle aussi les choses quand nous avons une relation avec. Mais quand il a été au temple, il disait, waouh, je peux mourir en paix. Parce que Dieu a tenu sa promesse. Je peux mourir en paix parce que j'ai vu le salut. Mais le plan et le cœur de Dieu, c'est pas juste pour Israël. C'est pas juste pour Juda ou pour le royaume du Nord. Son plan initial pour Dieu, sa mission de sauvetage, c'est pour l'humanité. Et c'est pour ça que Jean 3,16, un merveilleux verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa promesse, son Fils, qu'il a donné sa vie. Rappelez-vous, Jésus-Christ, moi et le Père, nous sommes un. Dieu qui a donné sa vie, qui s'est laissé mépriser, qui s'est laissé clouer, cracher, injurier, qui pouvait utiliser des myriades d'anges juste en faisant comme ça. Ce Dieu-là, qui avait à cœur et qui n'a pas changé le sauvetage de l'humanité. Pas juste du peuple d'Israël. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, Dieu a toujours eu des missionnaires. Élie, c'était quoi pour le peuple d'Israël? Qu'ils étaient en train de clocher à gauche et à droite. On peut l'appeler un missionnaire, un envoyé. Quand il y avait certains prophètes, que vous prenez Ésaïe, Jérémie et les autres, c'était les missionnaires. Dieu est préoccupé par la race humaine. Je m'explique. Pas préoccupé dans le sens, oh là, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Mais il a, dans son cœur, sauvé la race humaine à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai passé. Vous voyez que la mission, en fait, c'est Dieu qui l'initie. C'est Dieu qui, à travers des êtres humains, amène. D'ailleurs, rappelez-vous, l'apôtre Paul, il dit quoi dans le livre de Galates? C'était juste comme un pédagogue pour nos amis à Christ. Là, il parle de la loi. Mais tout ce qui se passait, les sacrifices, la construction de la tente de la rencontre, de temple, c'était juste une préfiguration de ce que Jésus faisait, pas juste seulement sur la terre, mais au ciel. Parce que son sang, il a été accepté où? Au ciel. Et à quel moment on sait que son sang, il a été accepté? C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est quand il est ressuscité. Quand il est ressuscité. Et si notre foi n'est pas basée sur la résurrection, si notre foi, si on ne croit pas à la résurrection, comme l'apôtre Paul dit, votre foi est vaine. C'est ce que nous dit dans 1 Corinthiens 16. Mais vous voyez, la mission. Mais Jésus, quand il était là, c'est vrai, il a guéri. C'est vrai, il a fait des miracles en multipliant les pains, en guérissant la lèpre. Pour vous donner une expression qu'on utilise dans la pensée hébraïque, il dit souvent, il est plus facile qu'un mort ressuscite que de guérir de la lèpre. C'est fabuleux. Pourtant, Jésus, il a guéri. Une fois, il a guéri même 10 lépreux à la fois. Il a dit, allez-y à cette fontaine. Et mais il ne s'est pas juste arrêté à ça. Il a formé des disciples qui sont des êtres humains, comme vous, comme moi. Il n'est pas juste formé en disant, voilà, hé les gars, on va passer 3 ans, mais vraiment super. Non, parfois, il est corrigé. Parfois, il disait, ce que tu penses, ce sont des pensées humaines. Non, moi, je pense pour l'humanité, parce que mon amour pour l'humanité, c'est un amour agapéo, sans condition. Et puis, on a ce sacrifice parfait. Et c'est pour ça que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a Jésus qui est sacrifié, qui est ressuscité, qui a l'ascension. Et là, il y a quelque chose. Donc, Jésus donne la mission dans Matthieu chapitre 28-20 pour continuer en réalité la mission. C'est pas une nouvelle mission. Allez-y dans le monde, baptisez-les, annoncez l'évangile, etc. Mais, avant que vous y allez, passons-y à Jérusalem, j'envoie le consolateur. J'envoie celui qui témoigne de moi. Pourquoi? Parce que vous pensez que, je suis chrétien depuis X années, je peux être missionnaire pour convertir les gens? Non. C'est avec l'assistance de Dieu, par le Saint-Esprit, que je suis missionnaire. Et maintenant, je vais venir pour nous aujourd'hui. Je ne vous cache pas la vérité que là, j'ai super raccourci parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Mais pour nous aujourd'hui, comme je disais hier, au groupe de l'évangélisation, la mission ne s'arrête pas juste à l'évangélisation. La mission, c'est vous, c'est moi, dans l'église, dans la famille, dans mon travail, partout. Prenons juste quelques versets. J'aime ce verset dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, c'est nous, hein, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Nous sommes des sentinelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas mettre sur notre CV, je suis sentinelle. À l'époque, quand il y avait une ville qui était gardée, il y avait des tours de renfort, et tu avais une sentinelle qui était là pour veiller, comme la parole nous encourage, veiller et prier au cas où si l'ennemi arrive. Parce que si l'ennemi arrive, ta mission à toi, c'est même pas d'aller combattre l'ennemi seul, c'est juste avertir. Et nous, c'est ça aussi qui fait partie de la mission. C'est vrai, il faut faire des disciples dans l'église, il faut. Parce que la parole nous encourage, comme l'apôtre Paul l'a fait, comme d'autres. C'est vrai que notre foi, elle doit être en action. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est stérile. Mais la mission, c'est vraiment pour l'humanité. Et en sachant encore une chose, c'est que la mission, elle est possible premièrement quand il y a un cœur disponible. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Seigneur, envoie-moi. La mission, elle est possible quand je dépends de Dieu. Jean 15, verset 5. Je suis le cèpe, vous êtes les serments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La mission, c'est quand il y a un cœur obéissant. Dieu ne cherche pas des gens parfaits pour la mission. Dieu ne cherche pas à remplir l'église qu'avec un type de culture. Eh non. La mission de Dieu est pour sauver l'humanité. Mais pour nous, concrètement, comment on peut être ces missionnaires? Puisque Israël devait être la lumière du monde. Et qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes la lumière du monde, de Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus va même plus loin en disant, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes un instrument que j'ai choisi. La mission, c'est vrai que je peux tenter d'aller avec mes gros bras en disant, ouais, je vais casser la baraque. Non, non. La mission, elle est possible parce que c'est Dieu qui est l'initiateur. Sans Dieu, je ne peux rien faire. De la même manière que c'est lui qui a initié dans le jardin d'Éden, que c'est lui qui a appelé Abraham, Noé, et puis tous les autres, que c'est lui qui a choisi un peuple, que c'est lui qui est venu tout simplement au pays sous cette croix, que c'est lui qui a fait lever des êtres humains comme vous, comme moi, pour être son marche-pied, pour témoigner, pour parler de la part de Dieu. Et en fait, nous, notre rôle, c'est pas juste d'évangéliser, mais c'est aussi d'avertir. Mais quelle est la motivation? C'est vraiment l'amour pour l'âme perdue. Le même amour que Dieu a. Et cela est possible quand j'ai une bonne relation avec Dieu, quand je me nourris de sa parole, quand, vous savez, si on vient à l'église, c'est pas juste pour se faire des amis. Même si parfois c'est pas le cas. Si on vient à l'église, c'est pour dire, Seigneur, donne-nous tes instructions pour que cette mission de sauvetage puisse continuer. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, toutes ces histoires des missionnaires qu'on entend à gauche, à droite, c'est magnifique. Mais nous, autant qu'église locale, on peut briller là où nous sommes. On peut faire connaître au monde que Dieu est vivant. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que je suis vivant. On peut pas dire, j'ai un cœur de missionnaire et j'arrive dans l'église. Ah ben non, j'aime pas celui-là. C'est incohérent. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean. Tu peux pas dire, j'aime Dieu de tout mon cœur et puis j'aime pas mon frère que je vois. C'est incohérent. La mission de sauvetage de Dieu, elle est basée sur son amour agapé. Et si on laisse notre cœur être transpercé par cet amour agapé, Dieu nous utilise des fois qu'on soit conscient ou pas. Mais c'est fabuleux. Pour vous donner un exemple, je lis il n'y a pas très longtemps le livre d'Apocalypse. Et j'ai donné cet exemple hier pour l'évangélisation. Vous savez, le monde dans le livre d'Apocalypse est souvent comparé à une mer. Et dans la mer, il y a ce qu'on appelle des grosses cloches qui flottent. Maintenant, ils ont un peu modernisé. Il y a non seulement la cloche, il y a aussi des grosses lumières. Déjà, un, pour guider les bateaux. Et deux, aussi pour avertir ceux qui habitent près de côte, s'il y a un tsunami, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et nous, on est un peu comme ça. On est ces grosses cloches, ces gros avertissements, ces grosses bouées de sauvetage. Et on est là pour ding, dong, pour partager la parole, partager l'amour de Dieu, pour briller comme ces lumières. Et si cette cloche-là est remplie sa fonction de cette cloche, ceux qui sont autour, ils sont avertis. Vous savez, la mission, il faut qu'on la prenne sérieusement. Parce que si vous regardez dans le même passage que j'ai pris avec Ézéchiel chapitre 3, juste un peu verset 18, Dieu met en garde Ézéchiel. Si je te dis une parole et que tu la dis pas, tu es responsable. Mais obéis à cette parole. Crois-la. Mais vous savez, juste pour conclure un peu, il y a beaucoup à dire sur la mission. Mais comme ces cloches-là, nous sommes là pour avertir. Rappelez-vous dans Corinthiens 13, verset 1, si je n'ai pas l'amour, c'est juste, ça sonne en vide. Sans l'amour de Dieu, je ne peux rien faire. C'est l'amour de Dieu qui me pousse, c'est vrai, à renoncer à mes actes, mais c'est aussi l'amour de Dieu qui me pousse à aller au-delà de mon confort, au-delà des personnes que je connais ou que je ne connais pas. Rappelez-vous, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est intéressant, la force. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ma force. La force, l'amour, je sais que je suis aimé. Je sais que non seulement moi je suis aimé, mais celui qui est proche de moi, lui aussi est aimé. Et parce que je sais que lui est aimé, je peux y aller vers lui. On peut avoir des craintes naturelles. Oh là là, je vais pas à l'évangélisation parce que j'ai peur de croiser quelqu'un. Oh là là, dans l'église, je veux vraiment pas avoir une relation avec lui parce que j'en sais rien moi. Dieu me l'a pas dit. C'est incohérent. C'est soit on prend à cœur cette mission, faire partie de cette mission de sauvetage que Dieu a initiée, soit j'ai envie de dire, on reste à la maison. Ça sert à rien de s'appeler juste une étiquette des chrétiens évangéliques. Dieu, ce qu'il cherche, c'est un cœur disponible pour tout, pour se pardonner les uns les autres, même si on se blesse, parce que nous sommes des êtres humains, pour s'aimer les autres. Seigneur, j'arrive pas à aimer cette personne. Ou Seigneur, je connais cette personne, mais je la connais pas, j'ai peur, etc. Demandez à Dieu, Seigneur, comment je peux te rendre visible si j'arrive pas à aimer celui qui est à côté de moi? Comment je peux te servir, Seigneur, dans l'église? C'est vrai que tu nous as donné cette grâce d'étudier ta parole. C'est une grâce. ITS, d'ailleurs, sincèrement, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais c'est pas un diplôme qui dit que je suis un missionnaire. C'est Dieu qui me dit. Parce que je suis missionnaire. Je suis missionnaire là où Dieu m'a placé. Que ce soit sous cette estrade-là, que ce soit à l'école dimanche, que ce soit dans ma famille. Parce que je peux pas dire, désolé, chérie, je me casse de la maison, je dois servir Dieu parce que je suis missionnaire. Non. Restons cohérents. Restons cohérents. Nous sommes missionnaires là où Dieu nous a placés. Parce que c'est Dieu qui a initié cela dès le commencement et jusqu'à que nous arrivons tous ensemble dans la promesse, la nouvelle Jérusalem, le ciel. Actuellement, Jésus a accompli sa mission sur cette terre parce qu'il a payé de son sang qui est parfait. Rappelez-vous, tout ce que Dieu a fait était bon. Tout ce que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, c'est très bon. Quand Dieu a offert sa vie, Jean 19, 30, c'est accompli ou c'est parfait. J'ai pas besoin de servir les autres. Oh là là, j'essaie de trouver une justification par les œuvres. Non. Vivons notre vie avec notre Dieu. Rentrons dans cette, dans cette mission de sauvetage pour l'humanité. Et comme Pasteur Reynaldo a dit à Baltimore, allons-y. Et si la mission aujourd'hui, pour nous, elle commence à prier pour celui que j'ai du mal à avoir une relation? Et si ma mission pour rentrer dans un plan de sauvetage, ça commence par ouvrir la Bible? Ça commence peut-être à demander pardon à ma femme, ou à mon mari, ou à mes enfants. Est-ce que cela ne glorifie pas Dieu? Alors, on n'est pas tous appelés des spurgeons, des... peu importe. Nous sommes appelés dans ce plan merveilleux que Dieu a créé, que Dieu a initié, dans ce plan de sauvetage pour l'humanité. Il y a beaucoup à dire sur la mission, comment on peut soutenir la mission, etc. Mais rentrons ensemble en tant que l'église locale. Rentrons ensemble. Vous savez, il ne faut pas qu'on s'arrête juste à notre église, à notre porte locale. C'est vrai qu'on dit souvent c'est notre église parce qu'on s'identifie à elle, parce qu'on va, mais c'est l'église de Christ. Mais que cela ne nous empêche pas de travailler avec les autres croyants. Que cela ne nous empêche pas de faire la différence. Ah ben désolé, Non, non, toi, tu vas dans cette église, je ne te connais pas. La mission de sauvetage de l'humanité, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Dieu a initié. Dieu nous a choisis, comme on a vu dans le passé, jusqu'à ce que nous rentrons dans notre demeure merveilleuse. Et rappelez-vous, la première partie de la mission de Dieu, c'est de nous placer dans un lieu merveilleux. Dans un lieu qui est bon. Dans un lieu où son amour règne. Dans un lieu où sa justice. Dans un lieu où, j'aime ce verset-là, où l'Éternel vient pour nous garder et nous cultiver. Genèse chapitre 2. Et quand on est au ciel, c'est ça que Dieu est en train de préparer. Nous sommes sauvés. Alléluia. Il faut le dire. Comme on a chanté tout à l'heure. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Rentrons dans cette mission de sauvetage qui est très courte. Et quand on arrive à la maison, dans ce lieu que Dieu prépare, merveilleux. Je lisais ça il n'y a pas longtemps dans, vous prenez Apocalypse 10, 20, 21 et 22. Un lieu, plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances. C'est juste merveilleux. Mais en attendant, nous sommes sur cette terre comme une équipe que Dieu a choisie, comme un peuple que Dieu s'est choisi, qui s'est acquis par son sang pour entrer dans ce plan de sauvetage pour l'humanité. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir sauvés. Et merci car tu as fait de nous des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Tu as fait de nous, Apocalypse chapitre 1, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Tu as fait de nous une lumière. Tu as fait de nous une sentinelle. Et Seigneur, que tout ce qui nous empêche de te suivre, de rentrer dans ce que tu as préparé d'avance pour nous, détruis-le, Seigneur. Mais nous, ce soir, comme Esaïe a dit, on choisit de rentrer dans ton plan. On choisit d'écouter ta voix. On choisit, Seigneur, d'être ces missionnaires là où tu nous as placés. Seigneur notre Dieu, merci car tu as initié. Merci car même si nous n'avons pas beaucoup de force, tu nous portes comme Esaïe chapitre 40. Seigneur, même si on pense que nous sommes incapables de tout ça, tu fais de nous, Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Seigneur notre Dieu, utilise-nous pour cette mission de sauvetage. La moisson est verte, la moisson est prête, et il y en a beaucoup, Seigneur. Donne-nous de la créativité autant que membre de cette équipe, de ce peuple que tu t'es choisi, de ce peuple que tu t'es acquis. Mais aussi, autant qu'église locale, Seigneur, donne-nous de la créativité pour témoigner. Et par la même occasion, Seigneur, je veux t'amener l'évangélisation de demain. Seigneur, guide nos pas, qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons être ces missionnaires et faire partie de ta mission de sauvetage pour l'humanité. Amen.